une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut Pissomme, comment ça gazouille ce troisième mois de l'an 26? On peut dire mars arrive comme un lion et repart comme un petit agneau. En ce mois de mars, entre les derniers frissons de l'hiver et les premières promesses du printemps, sfrijor comme ce lang samkel, je suis très heureux de vous retrouver surfer ensemble sur les ondes de la radio, Radio J. Chaque semaine, des voix différentes, des parcours singuliers, des fragments de vie partagés avec vous, les grandes oreilles. Et ce matin, je vous propose une belle histoire d'amitié fidèle et profonde, celle qui unissait Raymond-Émile Weidelich à son fidèle compagnon, ami Gérard Vincent. Une amitié faite de souvenirs, de rires, de passions inséparables comme deux perruches. Raymond n'était pas seulement un artiste, il était gay et un explorateur du temps, un collectionneur de tout et de rien, un poète, un humaniste qui transformait la mémoire en œuvre d'art. Salut Gérard Vincent, sois le bienvenu sur notre radio. Comment tu gazouilles ce matin dans ton monde ?
Bonjour, bonjour. Je me sens un petit peu comme un petit oiseau, comme une mésange ou comme une hirondelle. Et puis avec ce soleil qui revient et puis ces beaux jours, donc on va un petit peu profiter du printemps qui est, je pense, se met tout doucement en place.
En place, c'est très beau ce que tu dis, c'est de la poésie. Alors Gérard, Raymond-Émile Weidelich, quel personnage hein.
Ah ben Raymond, est... ça me ferait presque pleurer, c'est mon deuxième papa. J'ai eu tant de rencontres avec lui, d'anecdotes.
Tu étais un peu son confident, hein, son homme de confiance, son compagnon de route, son conducteur privé, même son chauffeur personnel.
Tout à fait. Alors, une petite anecdote là-dessus, parce que j'ai également connu Tommy Ungerer, et les deux me prenaient un petit peu comme chauffeur, et comme, ouais. Pour les courses, etc. Et quand je le disais à Raymond... Écoute, il me disait la semaine prochaine, tel et tel jour, tu serais libre. Alors j'ai dit, il disait non, je suis déjà pris. Alors il me disait...
Par qui ?
La diva passe avant moi.
La diva, c'était donc Tommy Ungerer.
C'était Tommy Ungerer, voilà, tout ouais. À fait.
Parce qu'en fait, on revient sur Raymond, il roulait jamais en voiture, il avait peur de la voiture. Il avait les hemboules sans bagnole, un peu, on dit en alsacien.
Il roulait souvent quand on allait à Mulhouse, quand on allait à Fribourg, quand on allait
à Fribourg. Mais pas souvent.
Il roulait pour aller... Mais souvent, pour revenir...
C'est toi qui conduisais.
C'est moi qui conduisais, ouais. Parce que... voilà, il y avait un peu d'huile de coude, on va dire.
Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Alors, vous avez tricoté une belle amitié tous les deux, hein, avec Raymond.
Ça a démarré en 77.
Wow.
Je travaillais dans un grand traiteur de Strasbourg et des orfèvres, et j'allais livrer Yvonne le matin. Et comme ça m'a changé du crocodile où je travaillais avant...
Parce que tu étais cuisinier. Hein?
J'étais cuisinier de métier, j'ai fait 43 heures et demie de cuisine. Mmh, mmh. Et donc le vendredi à 15 heures, j'avais fini jusqu'au lundi matin. Pour moi, c'était presque à mi-temps comparé au crocodile.
Ah ouais, ah ouais.
Et donc Yvonne, que j'appelais la grande, qui avait toujours... son petit doigt lui disait toujours un peu les nouvelles. Elle me disait, et qu'est-ce que tu fais les week-ends là? Comment tu t'occupes là? Ça doit te changer. Alors je lui disais, écoute, j'ai une fois un baptême, j'ai une fois... voilà. Et alors elle me dit, t'as acheté une maison là, du Picaim, t'as juste le boucle à traverser et tu serais chez mon copain là, tu voudrais pas rendre service et puis faire des extras. Et c'est comme ça que je suis tombé chez Philippe Chad.
Ah, chez Chad à Blesheim.
À Blesheim qui était...
C'était la cantine de Raymond ça
c'était,
là-bas.
C'était ouais. La cantine, c'était ouais. le bistrot de Raymond, c'était... partenariat pas possible.
Tu parles de Raymond, on parle de Raymond Weidelich dans cette émission, c'est vrai. Et il ne te manque pas trop Raymond?
Il me manque tous les jours.
Ouais.
Il me manque tous les jours.
Il est parti le 20 août 2024 à 85 ans. Hein.
Il est parti...
C'était un bel hommage à la cathédrale.
Oui,
hein.
Oui, tout à fait. Oui, on a été plusieurs à prendre la parole dans la nef de la cathédrale. Et ça a été des moments très émouvants.
Ouais, je sais, j'y étais. C'était,
parce que ouais. Raymond... Dans la vie, je ne connais personne qui m'a dit un jour du mal de Raymond.
Personne ne peut dire du mal de lui. C'était un personnage tellement rigolo, marrant, il te mettait...
Il savait piloter les gens, il savait faire un ensemble de choses qui faisaient que... On avait de temps en temps des discussions quand on allait au Kunstverein allemand. Et Raymond, c'était le style, un peu parce qu'il était peut-être un des plus âgés, mais à expliquer, écoute, dans 2-3 mois, on a une expo. S'il y a du linge sale à laver, c'est maintenant.
C'est pas pendant l'expo.
Et ça, c'était un fédérateur, Raymond.
Exactement. Alors, moi, je pense à un truc, c'est quand tu parles à l'instant de Tommy Ingerer et de Raymond, tu penses pas que là-haut, dans les étoiles, dans les galaxies, ils doivent repeindre toutes les étoiles ensemble,
hein? Alors, à ce propos, j'ai eu la chance de les avoir plusieurs fois à déjeuner chez moi.
Ensemble,
à la maison.
Tous les deux.
Ensemble,
ouais.
Oui.
Ouais.
Donc, Raymond tournait au blanc, Tommy tournait au rouge. Et alors, les grandes discussions, c'était... Qu'est-ce que tu crois qu'on devient après? Comment ça continue là-haut?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà? Et tu crois, avec toutes les conneries qu'on a fait, tu crois qu'on ira quand même au paradis? Alors, il y a un des deux qui disait, mais bien sûr, parce qu'on n'a jamais été trop méchants.
Ouais, exactement.
Pas...
Alors, on parle de la cathédrale à l'instant. Je sais aussi que derrière la cathédrale, place du château, Raymond avait enseveli, enterré des objets dans un caveau, comme ça, qu'on peut ouvrir quand 3790, le 23 septembre 3790,
oui,
il avait enterré des tonneaux bleus, comme ça, dans lesquels il avait mis plein d'objets. Hein, tu t'en souviens?
Oui, oui, tout à fait.
Il avait mis, je crois qu'il avait même mis des Prechtel, il avait mis un ballon du Racing, et il avait aussi mis un disque de Roger Siffert. Tu te souviens de ça?
Tout à fait, oui, oui. Il y a eu 1200 témoignages de gens, il y a eu à peu près 700 témoignages d'anonymes.
Ouais.
Il y a eu des gens qui ont mis des albums photos, il y a eu des gens qui ont mis des bouteilles de vin, les étoilés d'Alsace ont mis des plaques cuisinées. Il y a eu...
C'est une idée incroyable qu'il a eue.
Ah ben, il y avait 14 fûts,
je me souviens.
Qui ont été enfouis.
Des fûts bleus, comme ça, je me souviens bien.
Tout à fait.
J'avais fait le reportage pour la télé à l'époque. Je me souviens bien, j'avais filmé cet événement. Quoi.
Et Raymond m'a toujours dit, c'est quelque chose qui ne se refera plus, parce qu'il a fallu tellement d'autorisation, tellement de choses, etc.
Derrière la cathédrale, c'est quand même pas rien, quoi.
Oui.
De mettre du béton et de faire un socle en béton et
tirer. Pardon, il avait déjà anticipé ça parce qu'à Cassel, il avait déjà enfoui une voiture, une Trabant.
Ah oui, une Trabant,
et
ouais.
Et puis une Vespa, je crois, ou quelque chose. Et à Freiburg aussi, dans une descente de garage, il avait mis un urinoir, une tête de cerf, il avait mis des choses comme ça qui ont précédé l'enfouissement.
Raymond avait 50 idées à la seconde. Hein. C'était incroyable. Hein, t'es d'accord, hein,
et alors, il y a quelque chose qu'il avait en projet, mais qui ne s'est pas fait par rapport à cet enfouissement. Il avait fait faire un parchemin qu'il voulait mettre dans un tube en aluminium. Et ce tube d'aluminium, contre un échange de 50 euros, les gens pouvaient l'acheter.
Ah.
Et en 3790... la mairie de Strasbourg s'engageait à faire un petit banquet ou un repas à l'ouverture de ce caveau, parce que des gens auraient retrouvé des choses de leurs aïeux. Et ça a été un projet, mais qui n'a pas abouti. C'est dommage.
Mais en fait, Raymond, c'était toujours quelqu'un qui disait, je me souviens ce qu'il disait, yo, weich, weich, tu te souviens, en alsacien?
Bien sûr.
Il disait souvent ce genre de choses. Écoute, on va écouter un petit morceau de Roger Siffert, si tu veux bien, parce que c'était aussi un de ses grands amis. On va écouter le Hans in Schnokeloch.
Ok.
Par contre, ça avant, on peut dire que Raymond aussi, c'était aussi une sorte de Hans im Schnokeloch, hein. Et un grand défenseur de l'alsacien.
Tout à fait.
Avant toute chose.
Oui, oui. Raymond m'a toujours dit, je ne peux pas quitter le Mont-Saint-Odile et je ne peux pas quitter la cathédrale. Ce n'est pas possible, parce que Tommy lui disait toujours, t'aurais dû venir avec moi en Amérique. t'aurais fait un carton comme moi, etc. Et tout. Et Raymond lui répondait toujours, non, je ne peux pas oublier le vin d'Alsace, je ne peux pas oublier...
La cathédrale.
Je suis obligé de rester là. D'ailleurs, une deuxième petite anecdote, quand il a été enterré donc, à la tour du Klogosberg à Blesheim, il m'a posé la question, est-ce que tu crois que je mets la tête qui regarde le Saint-Odile ou est-ce que tu crois que je mets la tête qui regarde la cathédrale?
Ah oui.
Je lui dis, Raymond, ça c'est un cas de figure à toi, c'est personnel. C'est... Moi, personnellement, t'es un enfant du Neudorf, donc tu devrais regarder la cathédrale. Et en fait, c'est ce qui est...
Il a tenu compte de ce que tu avais dit. Vous avez des choses tellement intimes avant son départ, c'est ce qu'il te disait un peu?
Il n'a pas eu de garçon, Raymond, il n'a eu qu'une fille.
Une fille, oui. Hein,
qui malheureusement est décédée aussi.
Qui est partie
Flore,
aussi, ouais.
Qui est partie à peine un an après lui.
Oui, je me souviens.
Et il a une petite fille qui s'appelle Noah. Mmh. Et donc, Raymond a toujours été un peu... Mais comme j'ai dit avant, c'était un deuxième papa, c'était quelqu'un de... Il était attentionné, il me téléphonait, il suffit que je toussais un peu, il m'aurait téléphoné 10 fois pour voir si ça va mieux. Et moi, d'un autre côté, c'était pareil. J'étais toujours aux petits soins pour lui, et puis je savais qu'est-ce qu'il aimait.
Il avait cette amitié fidèle, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Moi, je l'ai emmené plusieurs fois en Allemagne, en voiture, quand on allait chez les Barreis, et puis on a fait ce beau film ensemble.
Tout à fait.
Chez son copain.
Chez Adler, chez Christophe.
On avait pêché. On en revient un peu tout à l'heure, on va revenir aussi un petit peu à toi, Raymond. Je voudrais voir un petit peu, on va un peu rembobiner ta vie pour savoir un peu d'où tu viens, ce que tu as fait. Là, j'ai un petit jingle. Regarde qui est ma boîte à nœuds. Regarde, quand on met ça.
Ok.
Alors, dis-moi, Gérard Vincent, tu viens de quel coin d'Alsace?
Alors, moi, je suis originaire de la vallée de la Bruche, de Wackenbach. Wackenbach, c'est Schirmeck, Wackenbach.
C'est là-bas qu'on parle le Welsh, non?
Plus le Vosgien, je dirais. Un petit peu. Et je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants.
Waouh, énorme!
Il y en a. J'ai encore 4 sœurs et un frère, éparpillés en France, et ma sœur la plus jeune est à l'île Maurice. Et donc, en 68-69, je voulais m'acheter une mobylette.
Ouais. Parle-moi un petit peu de ta vie d'avant. Comment c'était ton enfance? C'était comment avec tous ces frères et sœurs? T'avais une enfance heureuse
Bien sûr, oui. Papa travaillait dans le textile, maman...
Elle cuisinait, quoi, pour toute cette famille.
Elle a élevé la famille.
C'est elle qui t'a appris à cuisiner, ta maman?
Non, pas vraiment. Elle faisait ce qu'elle savait faire, elle savait bien le faire, le lapin, la bouche à la reine, un petit peu des plats typiques alsaciens. Mais je veux dire, par là, il y avait aussi un grand jardin. Les mois d'été, on coupait du bois, on empilait du bois pour chauffer la maison, etc. Donc, il y avait un petit ruisseau à côté.
La Bruche
Non. Le Framont.
Ah, le Framont, d'accord.
Le Framont qui se jetait dans la Bruche.
Oui, c'est ça.
Et puis, j'ai été au collège à Schirmeck et au bout d'un moment, je voulais donc...
T'avais déjà cette idée de devenir cuisinier?
Non, j'avais pas cette idée de devenir cuisinier. Je voulais travailler à 14 ans pour m'acheter une mobylette, comme j'ai dit avant. Et en fait, maman me dit, texto, je m'en rappellerai toute ma vie, tu crois qu'on va manger des pommes de terre et du riz pour que toi, tu puisses t'acheter une mobylette? Si tu veux une mobylette, tu vas travailler.
Tu bosses, ouais.
Et comme papa connaissait l'ancien maire de Labrouk qui s'appelait M. Bacher, et j'ai atterri, si vous voulez, au mois de juin à l'hôtel Neuhauser au Quel.
Ah, au Quel, en haut dans la montagne.
Dans la montagne.
Au pied du Fréconru, là.
Oui, un petit peu, là, les Quels, la salle.
Je vois très bien.
Pas loin du château de Salm.
Oui, bien sûr.
Où j'ai été pendant un été. J'ai fait les chambres, j'ai fait le jardin, j'ai fait les légumes, la vaisselle, les casseroles.
On commençait déjà un petit peu à cuisiner, quoi.
Et à la fin de l'été, j'étais déjà un peu en cuisine. Et Pierrot, le patron, me dit « Bah écoute, si tu veux, tu reviens pour Noël. Et puis si tu veux, l'année prochaine, je te reprends pour les mois d'été. » Et c'est ce qui s'est passé. Mais là, j'étais complètement en cuisine. Et vers le 15 août, il me dit « Écoute, j'avais jamais d'apprenti, mais tu serais mon premier apprenti. Est-ce que ça te plairait de faire le métier ?» J'ai dit « Sans problème. » Il a fait venir mes parents un après-midi et puis j'ai signé mon contrat d'apprentissage le 1er septembre 1969.
Waouh.
Et 3 jours après, il m'emmène à Schirmeck, chez Fuchs, le petit magasin de cycles. Ouais. Et il me dit, tu choisis la mobylette que tu veux,
génial.
C'est moi qui te la paye.
Ah ouais.
Ah oui, oui.
Et parce
oui.
que tu avais besoin de transport, tu rentrais tous les jours chez toi en mobylette après, ou tu dormais
non,
là-haut
non,
à la couelle?
Non, non, je dormais là-haut. Je rentrais le lundi soir, le mardi j'avais repos, le mercredi il y avait l'école hôtelière qui était encore
à Ilkirch, non?
Non, qui
dans
était
le quartier suisse
à la Cruteneau.
Non, c'était le quartier suisse vers la rue de la Lucerne là. Oui,
voilà.
Je vois très bien.
Oui, ouais, oui, ouais. Dans ce coin là, c'était encore. Monsieur Cochet, qui était directeur, Moritz, le surveillant principal, et puis on avait un jour par semaine les cours théoriques à l'école hôtelière. Et donc après, j'ai passé mon CAP en 72, et Pierrot me dit, écoute, tu auras 18 ans là, le mois prochain, reste encore jusqu'à Noël, tu passes le permis, et puis après, ben, on verra. Et comme j'ai eu mon permis au mois de novembre, il m'a laissé la 2 chevaux fourgonnette.
Ah ouais, génial.
En 72.
Ah ouais.
J'étais un des jeunes qui avait une voiture pour aller au bal samedi soir.
Ouais, ouais, ouais.
C'était énorme quand on réfléchit, quand on voit la vie de maintenant, etc. Et tout. Et donc, j'ai fini l'année chez Pierrot. On est d'ailleurs resté.
Et la cuisine, ça t'a tout de suite interpellé. C'était quelque chose qui te plaisait, de faire des plats pour les gens.
Oui, on avait, au Coel, c'était un peu la cuisine de famille. On avait des pensionnaires tout l'été. Et puis, Pierrot, il avait beaucoup de chasseurs. Donc, on a cuisiné le gibier. On a cuisiné les champignons, parce que c'est des coins aussi là-bas.
Ouais, c'est un coin complètement perdu, le Coel, hein, dans la montagne, ben, comme ça, dans la forêt.
Ouais. Oui, il faut sortir.
Oui, je connais cet endroit.
Voilà, et c'est devenu, là, les derniers temps, enfin, ça fait une paire d'années, un relais du silence.
Oui, c'est ça.
Et le fils, Michel, qui a repris, que j'ai connu
tout petit,
bébé,
ouais.
quoi.
Ouais, ouais.
Donc, il a fait des petits chalets,
je connais bien. Ouais.
Et j'ai eu l'occasion de déjeuner il n'y a pas trop longtemps. C'est toujours carré, quoi. C'est toujours une bonne adresse, quoi.
Et après, tu as fini aussi dans les Grands Étoilés. Tu étais avec Émile Jung pendant quelques années.
Après l'apprentissage, je suis parti au Barnabé, à Murbach.
Ah oui.
Ça, c'était avant l'abbaye de Murbach.
C'était un
étoilé Michelin aussi. Ouais, la famille Koenig et M. Jean-Paul Koenig étaient déjà un artiste peintre.
Ah,
ils peignaient déjà.
D'accord.
Donc là-bas, j'ai passé un an et demi à peu près. C'était aussi une famille.
Et comment c'était chez Émile alors, avec Monique et Émile?
Alors,
parce que là-bas, il y avait beaucoup de respect. Hein. C'était Monsieur Émile, c'était Madame Monique qui avait un respect incroyable. Hein.
J'ai fait l'armée, juste avant le crocodile, j'ai fait l'armée à Haguenau. Parce que quand j'ai fait mes 2 jours à Commercy, j'ai dit, écoutez, depuis l'âge de 14 ans, je suis parti de la maison. Donc si vous m'envoyez plus loin ou même je peux partir, ça ne me dérange pas. Et puis là-bas, on a dû dire, ah, toi, tu veux aller loin, Haguenau.
Ah oui, bon. Ton mythe.
Alors je me suis dit, de temps en temps, il faut un peu te taire.
Bien sûr,
il faut pas
toujours tout dire. Ouais.
Voilà.
À la mi-temps un peu de cette émission, je vais quand même te poser quelques questions. Tu fermes un peu tes yeux, tu ouvres grand les oreilles et tu me réponds en un seul mot, d'accord, hein? Alors je vais te poser, quelle est ta couleur préférée?
Le blanc.
Et ton mot préféré?
Confiance.
Confiance. Ton animal préféré?
Le crocodile.
Un crocodile?
Oui.
Ah bon, c'est étonnant, ça.
Oui, j'ai une petite collection de crocodiles.
Crocodile. Et quel est ton héros préféré?
Je dirais John Wayne.
John Wayne, ouais, le cowboy.
Voilà.
Ouais, Alors, ton plat préféré, pour toi, c'est facile en tant que cuistot. Qu'est-ce que ton plat préféré?
Cuisinier, on ne dit pas cuistot.
Cuisinier, non. Pardon, excuse-moi.
Un cuistot, c'est quelqu'un qui fait des merguez.
D'accord, ok. Alors,
d'accord. Je reprends tout le monde.
Non, mais tu as raison.
Voilà. Alors, mon plat préféré, ce serait un coulibiac de saumon.
Wow.
Que j'ai eu l'occasion de faire là, pas très loin d'ici, pendant des années. Ça ressemble un peu à un filet Wellington.
D'accord.
Et c'est à base de saumon, mousse de poisson, épinards frais. Et d'ailleurs, les couleurs blanc, orange et vert, c'est un plat que j'ai fait à Tommy quand il est venu à la maison, parce que c'est la couleur de l'Irlande.
Ah,
sachant
oui.
que Tommy
D'accord.
a habité bah
oui,
aussi.
Bah oui, il habitait longtemps en Irlande. Ouais. Et alors, à quelle époque aurais-tu aimé vivre?
Ça ne m'a pas trop dérangé là, de vivre à cette période-là.
À cette période,
Par
ouais.
contre, je me dis, ça va trop vite.
Le temps passe vite. Ouais.
Le temps passe... Non, et puis il y a l'intelligence artificielle, il y a des choses qu'on ne maîtrise plus, et puis il y a cette... cette chose de racisme, cette chose de... J'ai eu l'occasion, moi, de travailler dans beaucoup d'endroits où il y avait des gens de couleur, où il y avait un peu tout ça. Mais on n'a jamais eu de problème...
Avec les gens.
Ils étaient là. Vous prenez ceux qui sont arrivés dans les années 60,
Ils ont tous travaillé, reconstruire la France et tout ça.
Et fait les sales boulots.
Oui, c'est ça, absolument. Alors, on va continuer avec mon petit questionnaire. Et si tu étais un arbre, tu serais lequel ?
Un érable.
Un érable ?
Oui.
Pourquoi ? Parce que ça change de couleur.
J'ai eu trois fois l'occasion d'aller au Canada et déjà c'est des gens adorables et puis je trouve l'érable c'est un bel arbre.
Voilà. Et ta fleur préférée ?
Je dirais le clivia.
Ah, le clivia ?
Oui, ouais. Les clivias. J'ai des clivias qui ont plus de 20 ans.
D'accord. Et pour finir, en fait, quel est le parfum de ton enfance que tu n'oublieras jamais, jamais, jamais ? C'est quoi ?
C'est de m'allonger dans la forêt, de respirer un cèpe de Bordeaux. Qu'est-ce qui dégage comme arôme et comme parfum.
Que tu as cuisiné, que tu aimes bien cuisiner, le cèpe de Bordeaux.
Que j'aime bien cuisiner, oui. Je suis un amateur de champignons, j'y vais tous les ans.
Ah oui, c'est bien. Attends, j'imagine que tu as tes petites places là-bas où tu habites, ou alors...
Vers le Mont-Saint-Odile, vers le Donon, etc.
D'accord. Et tout. Alors, on va continuer un peu, Gérard. Tu me disais, Philippe Chade, parle-moi un peu de cet endroit de Philippe Chade à Blesheim que tu as connu, là où tu as connu. Tu as connu en fait Raymond là-bas, je crois.
J'ai connu Raymond là-bas, puisque c'était un peu son pied-à-terre, sa cantine. Raymond avait toujours dans le bar en bas sa bouteille de blanc. Et il était là, je veux dire, 3-4 jours dans la semaine. Avec Philippe, c'était deux compères.
Puis il avait des dessins partout. C'est lui qui décorait au plafond jusqu'au mur. Il y avait des dessins de Weidelich partout. Hein.
Tout à fait, oui. Il avait Tommy aussi avait pas mal mis de dessins là-bas. Et en fait, Raymond était un petit lutin parce que de temps en temps, quand il avait un peu du gaz, par exemple, une anecdote, il allait à une table. Il choisissait un peu parce qu'il parlait très bien l'allemand et tout. Et quand il y avait une table d'allemand... Philippe avait un menu dégustation, si vous voulez, avec des hors-d'œuvre riches et après une matelote de poisson. Et donc, il allait à cette table et puis Raymond, il disait, écoutez, vous êtes sûr que vous voulez manger la matelote ? Parce que hier soir, ça s'est un peu mal passé avec des Belges. On a dû appeler le SAMU, ils étaient malades. Alors, les gens ils se regardaient et Philippe, qui était dans la cuisine, il voyait ça à travers le pass, il me disait... Il recommence avec son cirque. Il recommence avec sa façon là de... Faut que je sorte là, faut que j'aille expliquer. Mais ça c'était Raymond.
Ça c'était, il faisait des blagues, il m'en a fait aussi quelques-unes.
Ça c'était Raymond.
C'était incroyable. Alors, je sais aussi que Raymond et Philippe Chade, c'était des grands pêcheurs. Ils allaient en Irlande, en Écosse,
au Canada,
pêchaient le saumon.
Oui, Raymond, il a eu un premier prix à Vancouver. Il a tiré un saumon de je ne sais pas très quelle grandeur. Et alors, quand ils allaient pêcher en forêt noire, à Oberammersbach,
là où j'ai fait le reportage avec lui. Je me souviens, tu étais avec, tu te souviens ?
Oui, je les ai vus tous les deux tirer sur la queue de la truite parce qu'il y avait une différence de 1 ou 2 centimètres voulait gagner.
Mais comme on dit, il avait du macellus. Je me souviens pour ce reportage qu'on avait fait, il pêchait à la truite et il avait sorti un monstre, quoi. Et il hurlait de joie tellement il était heureux.
Raymond, il avait deux endroits en Allemagne. Il était à Oberammersbach, où il connaissait bien le maire, M. Wagner. Et là-bas, il avait 800 mètres de rivière.
Oui, c'est ça.
Qui était pratiquement le seul Alsacien qui pêchait là-bas. Mais bon, il faisait partie de la Kunstverein, il faisait partie de l'Amicale des pêcheurs. Il les payait largement, les 800 mètres de rivière.
Oui, bien sûr.
Et le deuxième endroit, c'était chez Adler.
Chez Adler, on a fait un tournage.
Et là, on a mis le fourneau dans la prairie.
Et on a cuisiné.
Et il a pêché des Nemos.
Des trucs du clown, là,
des poissons en plastique.
Qu'il avait mis sur un plat. Alors, tu m'avais aussi raconté une anecdote qui était assez croustillante. En fait, tu m'avais dit un jour, il avait ouvert une bouteille de pétrus et il n'y avait pas de verre. Vous avez bu le pétrus dans des gobelets en plastique.
Oui, on a bu. Ben écoute, c'est comme ça. J'ai pas un grand souvenir de ça parce que c'était un peu dommage.
On peut apprécier le pétrus dans un gobelet en plastique.
Voilà, mais.
On va écouter un tout petit peu de musique parce que tu me parlais de Moustaki que tu aimes bien. On va écouter une petite musiquette.
D'accord.
Prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude.
Alors Gérard, tu la fredonnes cette chanson parce que tu es aussi ténor dans une capelle. Tu chantes dans un orchestre ou dans un...
Je chante dans une chorale. J'ai commencé à chanter...
Tu peux me fredonner un petit peu cette chansonnette là que tu as préparée un peu? Vas-y voir.
La même...
Oui, juste un petit peu, un tout petit bout.
Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons régler notre vie.
C'est mignon, tout plein, dis donc. Donc tu prends plaisir à chanter dans ta chorale?
Alors, en fait, au niveau du chant, pour partir du début, quand mon dernier emploi, c'était dans une maison de retraite sur Ilkirch, et les résidents disaient toujours, quand ça chante en cuisine, c'est que Gérard est là. Ah. Donc j'avais la radio et je chantais là. Et on m'avait déjà sollicité pour rentrer dans le chœur d'hommes de Kolbsheim, avec une vingtaine de chanteurs, mais que des hommes. Et là-bas, la première fois que j'ai été, j'ai dit je viendrai quand je serai en retraite, parce qu'ils répétaient à 7h30, 8h, et moi je finissais souvent que vers 7h30, 8h. Donc la première fois que j'ai été en septembre, le chef de chœur me dit, devant les 20 là, « Ah, vous voulez chanter avec nous? Chantez-nous quelque chose. »
Ah ouais. Et c'est là tu prends plaisir à chanter. Voilà. Même en cuisinant, tu as pris beaucoup de plaisir.
Oui, oui,
en...
oui, oui.
Et je voudrais aussi te poser une question par rapport à Raymond. Qu'est-ce que c'était quoi son plat préféré que tu... Des bouchées à la reine, non? Tu me disais un moment, il aimait bien les bouchées à la reine, je crois. Hein,
il aimait bien tout ce qui était un peu cuisine alsacienne. Il aimait bien le pot-au-feu. Il aimait bien le poisson aussi, il aimait bien même le poisson cru, ça, les fruits de mer, etc. Et tout. La bouche à la reine, c'est un classique de chez classique, parce que tout le monde...
Il aimait aussi la schmierwurst.
Et il adorait la schmierwurst.
La schmierwurst, d'ailleurs, il a fait un truc avec la COP, non?
Avec la COPAL, oui, là. Oui, avec
Il avait fait des œuvres d'art avec
tout
des...
Tout à fait, il y a des saucissons en plastique.
Je me souviens de
la schmierwurst.
Ouais, ouais.
Et on devait faire une confrérie de la schmierwurst. Mais bon, le temps a rattrapé Raymond et il ne pensait jamais partir si vite.
Ben oui, bien sûr.
Non, ouais, ça a été trop rapide.
Ouais, ouais,
il avait encore mille idées en tête.
Ben, il en avait plein des idées tout le temps. Il débordait d'idées.
Tout à fait.
Et en ce moment, en fait, il a son expo, hein, je crois, à l'Estampe.
Il a tout à fait une expo à l'Estampe qui
a démarré là il y a quelques jours.
Oui, oui. Et il a toujours un peu travaillé avec les galeristes. Il a toujours travaillé un peu. Mais il m'a toujours aussi dit, Raymond, tu sais, si je devais vivre avec ce que j'ai vendu en France, je serais sous les ponts.
Ah oui, il gagnerait pas de sous.
Il a vendu en Suisse, en Allemagne.
Et alors, il y a une autre actualité dans quelques temps. La Croisie Europe va... Il y a un bateau qui portera son nom, je crois. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Anne-Marie Schmitter et la famille Schmitter ont organisé... Le vernissage sera le 15 mars.
Ouais.
Là.
Bah, on sera là, on ira voir ça.
Croisie Europe fête ses 50 ans le week-end d'après.
Oui, c'est ça. Bah, écoute, Gérard, notre émission se termine. En tout cas, on a dit beaucoup de choses de Raymond Weidelich. C'est un plaisir de parler de lui. Et on se souvient tous, on a tous passé des super moments avec lui. Porte-toi bien, merci d'être venu.
Merci
et à très, très bientôt. Hein, c'était sympa.
Je pense qu'on aura l'occasion
de se revoir.
De refaire une deuxième.
Merci. Ok, merci.
Merci, à plus.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté.